Et puis sinon, on a dit, vous êtes mariés, vous avez 5 enfants, et vous êtes partie de la communauté d'Emmanuel.
Oh, c'est très bien. Mais...
Donc, comme vous êtes partie de la communauté d'Emmanuel, on va payer plus
de... Et je ressens la Germain, pardon.
Oui, c'est pas ça. Seigneur, Esprit Saint, descends sur nous, inspire Paul Clavier dans ce qu'il va nous dire et donne-nous un cœur ouvert pour comprendre et accueillir avec amour et avec foi ce qu'il va nous dire. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Bien, alors, la dernière fois que je me suis adressé à des talas, c'était il y a une dizaine d'années, je crois, une quinzaine d'années, le père Armogat qui était là s'est endormi au cours de... C'est excellent pour l'humilité. Pourtant, je croyais être amusant, brillant, mais bon, c'était pas le cas. Enfin, pas assez. Bon, donc, vous voyez la pression que je mets sur son succès. D'autant que le sujet qui m'a été imparti n'est pas du genre joyeux, prime sautier, c'est le mal naturel. Et c'est une double punition, une double peine, parce que quand un philosophe parle du mal, alors on va surtout parler du mal moral, de la responsabilité de l'homme, de la complicité, ou de la responsabilité de l'homme dans le déclenchement de supplices terribles, de perversions. Mais là, c'est le mal naturel. Or, les tsunamis, croyons-nous, ne sont pas d'origine criminelle. Le cancer, on n'a pas encore trouvé qui l'avait instillé dans les cellules. Et pourtant, on verra qu'en un sens, il n'est peut-être pas possible de poser la question du mal naturel sans poser aussi la question d'un désordre de type moral ou d'une perversion dans la création. Mais je ne vais pas vous spoiler, n'anticipons pas. C'est assez intéressant de remarquer que quand on s'interroge sur le mal, enfin quand les philosophes s'interrogent sur le mal, on privilégie tour à tour le mal moral, que les théologiens appelaient le mal de culpe, dans lequel il y a une responsabilité, une culpabilité, et à d'autres moments, le mal naturel correspond plus ou moins à ce qu'on appelle le mal de peine, qui indique la douleur, la souffrance subie, endurée, sans qu'il y ait, semble-t-il, d'auteur ou d'agent moralement responsable de cette souffrance. Le tremblement de terre de Lisbonne ou le tsunami d'Haïti, bon, voilà, ça c'est mal de peine. On dit, mais comment se fait-il que tant de personnes disparaissent comme ça, submergées par les flots, etc. Et puis, les grandes horreurs de notre 20e siècle révolu, mais enfin, c'est le 20e siècle révolu, les horreurs malheureusement ne le sont pas. Concept de Dieu après Auschwitz, etc. Et c'est curieux de dire, ben voilà, il y a deux mots, et les philosophes sont plus à l'aise pour discuter sur le mal moral, parce que là, il y a toute une batterie d'arguments pour dire, oui, le mal moral est lié à la responsabilité morale des individus, et donc leur liberté, le coût de la liberté, ou le prix de la liberté, c'est que l'homme puisse détruire l'homme. Bon. Par contre, le mal naturel, on sèche beaucoup plus vite. Alors, j'ajoute aussi, parce que je ne voudrais pas qu'aucun d'entre vous soit blessé. Bon, là, je fais un topo, une causerie, mais bon, j'envisage tout à fait le cas que tel ou tel d'entre vous puisse avoir, dans ses proches ou dans sa vie même, des souffrances physiques, ou connaître rien, et trouver insupportable qu'on en disserte comme ça. Voilà. Avant d'être un sujet de dissertation, le mal, c'est une épreuve. Et du coup, dans l'épreuve, on n'est pas en train de raisonner. Hein. On supporte, et on la supporte, ou on supporte, ou on soutient ceux qui la supportent, ceux qui l'endurent. J'aime beaucoup un philosophe contemporain que je traduis là, Richard Swinburne, qui est un peu spécialiste de philo de la religion et de problèmes de théodicie. Il a écrit un livre assez dur, mais très fort, qui s'appelle « La Providence et le problème du mal »,« Providence and the Problem of Evil », dans lequel il dit « People in distress want comfort, not argument ». Les gens plongés dans la détresse ont besoin de réconfort, pas d'argument. Ah, mais t'as été trompé par un tel, t'as été bizuté, t'as cassé la figure. Oui, mais c'est pour que d'autres soient libres. C'est pas une... Il faut parfois préférer une parole compassionnelle, qui peut-être s'avérera théologiquement douteuse, hein, à une parole d'une justification comme ça, surplombante, mais qui va blesser encore plus. Bon. Comme dit le Talmud, il vaut mieux enfreindre la Torah que blesser quelqu'un. Parce que toute la Torah est pour ne pas blesser, justement. Bien, alors voilà, après ces précautions oratoires déjà trop longues, le mal naturel recouvre quoi ? Ben, les catastrophes naturelles, les maladies, les accidents de santé, les accidents de parcours. Bon, quelle que soit la description qu'on en fait, vous avez des spiritualités qui disent « mais non, mais le mal est une illusion » ou alors des exercices spirituels de type stoïcien, « douleur, tu n'es qu'un mot », etc. Bon, ça, ce sont des stratégies. En attendant, il y a ces souffrances, il y a ces tissus qui se décomposent, qui se déchirent, il y a ces maladies, il y a ces personnes noyées, etc. Donc, la production du mal moral, on trouve plus ou moins une explication dans l'existence d'agents libres. On peut d'ailleurs faire des objections, dire mais pourquoi les agents libres seraient forcément malveillants ? Dieu aurait pu créer un monde dans lequel, tout en exerçant leur liberté, les êtres humains sont bien bienfaisants. Hein. Et puis, autre objection, ok, la liberté peut déroger au plan de bonté de la création, parce que liberté est un pouvoir d'agir autrement, mais ce ne sont pas les casseurs qui sont les payeurs, puisque souvent, semble-t-il, au moins dans un premier temps, la personne malfaisante fait des dégâts autour d'elle et ça tombe sur des innocents. Alors, j'entre pas dans ce débat, puisque c'est justement celui qui m'est épargné, mais le mal naturel, c'est encore plus difficile, parce qu'on a envie de dire, bah là... Alors, on peut distinguer quand même deux perspectives. La perspective... la prise en compte du mal naturel quand vous êtes agnostique ou athée et du point de vue du croyant, enfin il y a des croyants parce que croyance il y en a presque autant que d'individus. Dans la perspective agnostique ou athée, le mal naturel est un argument qui fait souvent pencher la balance du côté de l'athéisme radical. J'ai envie de dire a priori, si je me pose la question, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, tout ça, c'est pas fait tout seul, bon, après tout, sentiment assez général, oui, il y a quelque chose derrière tout ça, peut-être quelqu'un, oui, mais la destruction de tant de vies humaines, même pas par le truchement d'agents pervertis, mais par les lois de la nature, semble décourager toute confiance en un Père céleste bienfaiteur, ou même en un principe... bien de l'univers. Au mieux, on aura deux principes assez équilibrés, un principe bon, un principe mauvais, on trouvera une sorte de dualisme ou de manichéisme, c'est pas exactement la même chose. Donc, dans la perspective agnostique, le mal naturel est souvent invoqué comme un argument qui fait pencher la balance en faveur de l'athéisme. Dans la perspective théiste, donc une personne qui admet par grâce ou par la raison naturelle, hein, l'existence d'un créateur bon et provident. Alors, ça peut faire basculer une personne du côté de l'athéisme, mais généralement, le résultat est différent, c'est que ça va donner lieu à une requalification des attributs de Dieu. Jusqu'ici, je croyais en un Dieu bon, tout-puissant, et ben, peut-être qu'il n'est pas si puissant que ça. Voilà. Si vous voyez, c'est la même réponse que Hans Jonas à la Shoah, mais appliqué cette fois uniquement au mal naturel. Il y a des tsunamis, il y a le tremblement de terre de Lisbonne, donc c'est le jour de la Toussaint quand même, hein, en 1754 ou 5, je ne sais plus. 20 000 chrétiens d'une ville très catholique, Lisbonne, hein, meurent en quelques heures. Bon, on dit, là, ça fait bizarre, ça fait désordre. Voilà. Alors, pour simplifier, alors, donc, soit dans la perspective théiste, soit on requalifie, on dit oui, bon, finalement, Dieu n'est pas celui qu'on croyait. Ou carrément, on peut faire appel au mystère. On dit, ben oui, c'est, regardez le livre de Job, à la fin, Job maintient son droit ou demande une explication pourquoi il subit des trahisons, mais aussi des maladies, le couvert d'ulcères, etc. Bon, plein de catastrophes naturelles s'abattent sur sa famille, c'est des maladies, etc. Sur ses troupeaux, c'est encore plus important, bien sûr. Et bon, Job a une entrevue avec l'Éternel et qui lui dit, écoute, c'est moi qui ai fait tout ça, où étais-tu quand j'ai créé la terre, où étais-tu quand j'ai créé les cieux. Bon, alors, t'es pas compétent pour juger la façon dont les choses se passent. Cet appel au mystère n'a rien de ridicule. Mais il n'est pas très convaincant si vous avez discuté avec un athée, il y a du mal, oui, c'est un mystère. Okay. C'est un mystère d'iniquité, tu comprends. Alors, un petit croquis valant mieux qu'un long discours. Je vous inflige une petite leçon. Inspirée de matrice. Une matrice fameuse que vous trouvez dans le Deiravei, et qui sur la colère de Dieu et qui attribue à Épicure, c'est assez curieux, le raisonnement suivant. Alors, j'ai noté quand même le raisonnement original, ça c'est le résumé. Ou bien Dieu veut éliminer le mal, mais il ne le peut pas. Ou bien il le peut, mais il ne le veut pas. Ou bien encore, il ne le veut, ni ne le peut. Ou enfin, il le veut et le peut. Un petit croquis, vous voyez, comme discours. Donc, Dieu, enlever le mal, soit il veut, soit il ne veut pas, soit il peut, soit il ne peut pas. Puis après, on combine les deux. Alors, il y a la différence de non vultra, ça ne dit pas, on dit nolit, c'est ça. Et non potest, c'est nequit. Vraiment, on va voir un peu plus tard. Le latin, l'accent, c'est un peu dégradé. Le latin, l'église, etc. Bon, alors, on va faire le tour des cases, là. On va commencer par la case, bon, écoutez au hasard, la case, c'est là. Dieu peut supprimer le mal, l'enlever, alors on peut dire, oui, tolérer, c'est aussi le porter. Pour les non-latins, ça ne veut pas dire Dieu tolère le mal, attention. Mais c'est quand même de la permission au mal. Bon, enfin, j'essaie d'égayer un peu, parce que le mal naturel, c'est quand même pas un sujet très... Alors, Dieu pourrait enlever le mal, mais il ne le voudrait pas. Donc un Dieu tout-puissant, mais méchant. C'est un Dieu que Lactance, à la suite d'Épicure, appelle inumidus, haineux, cruel. Alors on va dire, bien sûr, c'est pas possible. Je ne suis pas tellement, si convaincu que cette possibilité soit à exclure facilement. Pas simplement dans l'anthropologie ancienne, dans la tragédie grecque, Dieu qui se vend, etc. Mais je pense qu'en s'interrogeant nous-mêmes, parfois on se dit, mais au fond, la conception que j'ai de l'action de Dieu, ça quand même qui casse la gueule à certains temps de gens. Alors pas moi, mais finalement, que Dieu puisse. Il y a un texte magnifique de sagesse, Tuna de qui dit, dans lequel. Tu es maître et ami de la vie, tu n'as de mépris pour rien de ce qui existe. Qu'est-ce qui aurait subsisté si tu n'avais pas voulu ? Dieu permet autre chose, je pense à autre chose. Je laisse ça de côté. Donc, c'est le Dieu cruel, méchant, celui dont Nietzsche dit c'est le seul auquel je peux croire. Un Dieu qui se repaît du spectacle douloureux, une sorte de. Voilà, d'épreuve pire que Koh-Lanta, où vraiment les gens en bas disent oui, c'est tout, etc. Ils ont peur, ils pleurent, etc. Et il est content, ça fait un beau spectacle. C'est le buzz sur TF1. Ensuite, autre possibilité, Dieu, ah non, c'est pas le Dieu méchant, il veut en fait, il veut enlever le mal. Il est là pour ça, mais il ne peut pas. Il voudrait bien, mais il peut pas. Et alors là, ce Dieu, il est appelé inbecilus, pas au sens de l'imbécile, mais ça veut dire faible, débile. Incapable. Et ça s'écrit avec un N et pas avec un M. J'ai vérifié en texte de la France. Ça, c'est une possibilité intéressante. C'est la possibilité qui prévaut souvent. On dit, ah ben, ma bonne dame, vous savez, pour les tsunamis, Dieu ne peut pas tout. Et ça convainc les gens. Et j'ai envie de dire, parfois c'est une parole compassionnée qui a sa valeur. Si vous apprenez le décès de quelqu'un, vous allez dire, les médecins ont tout essayé, mais ils n'ont pas pu. Vous ne pouvez pas dire, mais ça aurait pu faire beaucoup mieux quand même. Aujourd'hui, on fait des procès après, mais sur le moment, au moment où vous avez annoncé le décès à la personne, vous n'allez pas dire, ah oui, il faut tout de suite porter plainte, hein, les médecins. Ils ont tout essayé, on n'a pas pu leur donner, le défibrillateur ne marchait pas. Donc, cette ressource, comme celle-là, elles ne sont pas à négliger. Et nous avons, je crois, à nous demander souvent si nous naviguons pas entre la case nord-est et la case sud-est. Du Dieu incapable, du Dieu qui a perdu sa toute puissance, le pauvre, il s'est retiré, vous comprenez, il est en RTT, il ne peut plus rien faire. Et il aimerait bien, il voudrait bien qu'il n'y ait pas toutes ces catastrophes naturelles, ces maladies, ces Alzheimer qui rongent les familles, qui désespèrent les gens, mais il ne peut plus rien faire. Quelque part, c'est plus confortable que ça l'amuse. Il pourrait, mais ça l'amuse. Alors, il y a une case quand même qui est un peu embêtante, c'est celle où Dieu est à la fois invidus, haineux et imbécilus, bête et méchant. Mais je pense que c'est une case qui n'est pas intéressante. Parce que de toute façon, à partir du moment où vous êtes incapable, que vous soyez bien intentionné ou bien passionné, ça ne change rien. C'est comme King Kong derrière le 15 litres par balle, etc. Bon, bah, mais si vous bouffez, vous êtes tranquille, quoi. Donc il a beau être animé de haine et de destruction, s'il ne peut rien faire, voilà. Et puis il y a la case en Normandie, hein, nord-ouest, la Bretagne, finalement. Dieu, il veut supprimer le mal, il peut supprimer le mal, et alors la question, pourquoi il y a du mal? Et du coup, la question, ça va être, alors s'il veut et qu'il peut, quelle raison aurait-il, quel intérêt à avoir une bonne raison, de laisser subsister ces maladies, ces Alzheimer, ces tremblements de terre, etc. Alors, beaucoup de gens se sont demandé dans quelle mesure on pouvait exonérer Dieu de haine ou d'incapacité et tâcher, sans tricher sur les descriptions, on ne va pas dire « Oui, enfin, c'est un tsunami, enfin, c'est une baignade. Voilà. » C'est en prenant en compte la véritable détresse, la suffocation des noyés et la disparition et le deuil des familles, etc., et on va dire, qu'est-ce qui pourrait, le terme justifié évidemment, on fait froid dans le dos, mais qu'est-ce qui pourrait, c'est même pas expliqué, pourrait nous donner un aperçu des raisons qu'aurait un Dieu bon et tout-puissant de laisser subsister, de, comme on dit, de permettre le mal naturel. Voilà, c'est sur cette case qu'on va essayer de travailler. Mais vous savez, moi je me dis souvent, où est-ce que je suis, hein, là, bon, ça sert à rien, c'est la case d'amitié. Et souvent, on oscille quand même, hein, vous voyez, par là. Oui, je crois, quand même, oui, mais enfin, quand même, là, ça va. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de savoir dans quelle case on se situe, en fonction des gens à qui on parle. Entre tout à l'heure, on va dire quand même, oui, comme ça qu'Augustin a dit, Dieu ne permettrait jamais qu'un mal se commise, qu'il ne pouvait en tirer un bien, ça rencontre. Mais quand on n'est pas entre tout à l'heure, bon, voilà. Ça, c'est un peu plus difficile, je vous savez, quand tout va s'arrêter, c'est parce que Dieu déteste l'humanité. Je n'ai pas souvent entendu. Mais attention, il peut y avoir une pertinence de cette idée d'un Dieu haineux.
Alors, je vais juste vous proposer quelques pistes. Là, c'est pas un discours de compassion ou de consolation que je tiens, c'est voilà, quelle raison aurait Dieu de permettre le mal naturel? Qu'est-ce qui pourrait justifier quelqu'un qui dit « Bon, mais je maintiens ma foi ou mon affirmation philosophique que Dieu est tout puissant et bon, et je maintiens également le fait que des mots réels et non pas purement illusoires se produisent. » Alors, il y a une première raison très classique qui est de dire c'est ce qu'on appelle la limitation métaphysique des créatures. C'est-à-dire, attendez, le statut de la créature ne peut pas être celui du créateur, donc il y a forcément, du défaut, du désordre, etc. Alors, c'est un argument difficile à manier, parce qu'on a envie de dire, bon, à la limite que les créatures, alors, est-ce que c'est suite au péché ou pas, c'est autre question, mais ne soient pas toutes immortelles, ou ne soient pas invulnérables, est-ce que ça implique qu'il puisse y avoir de telles souffrances naturelles? Est-ce que le fait que les créatures soient dépendantes les unes des autres quant à leur alimentation donne lieu forcément à une chaîne alimentaire qui est assez dévastatrice et cruauté des espèces qui sont trop dévores, etc. En attendant que nous devenions tous véganes, etc. Il y a quand même de la marge et on peut se dire, au fond, Dieu n'aurait-il pas pu créer un monde dans lequel, effectivement, notre dépendance alimentaire ou autre ne se passe pas par la destruction d'un animal ou même d'un végétal, d'une autre espèce. Bon. Donc, c'est pas évident de dire, oh, les créatures sont limitées, elles sont en état de progression, et du coup, voilà. Alors, je vais pas pouvoir discuter en détail, hein, mais voilà, c'est une première réponse. Alors, il y a aussi un certain nombre de cas de maux naturels, précisément ceux de douleur, hein, qu'on peut interpréter de façon très positive en disant heureusement qu'elles existent, et c'est le cas du signal d'alarme de la douleur. Hein. Si je mets ma main sur une plaque chauffante ou sur une plaque de vitrocéramique, etc., si je ne ressens pas la douleur, alors ma main va se calciner, pendant que je fais le beau parleur sur ma naturelle, et à la fin, la chauffeur, là. Donc, certains mots ont une fonction prophylactique, d'avertisseur, prophylactique qui prévient, qui met en garde. Bon, alors on va dire très bien, mais on aurait pu imaginer un système d'avertissement différent, un clignotant, un warning, etc., qui fait que vous êtes prévenu sans douleur. On va dire, oui, mais attendez, vous ne connaissez pas la psychologie humaine, quoi. Quand vous dites toujours attention, ça peut faire très mal, il traverse quand même, voilà. Il n'y a que dans les trains qu'on est sans arrêt rappelé à ne pas descendre sur la voie en dehors des gares, mais de toute façon, vous ne pouvez pas ouvrir les portes. Donc c'est un peu le cas. Une béquilousse et une bilousse. Bien. Voilà. Donc, la fonction de signal prophylactique. Alors, des philosophes, jamais à court d'imagination, ont dit, mais attendez, faut aller plus loin que ça. Certaines souffrances physiques, puisqu'on parle ici de mal naturel, hein, certaines souffrances physiques des stimulations, alors ce ne sont plus des avertissements, ce sont des stimulations pour l'amélioration du sort des êtres humains. Certaines personnes souffrent du froid, meurent gelées dans les cavernes de nos ancêtres, on invente le chauffage central, c'est merveilleux, etc. Bon. Alors il y a peut-être des excès dans la climatisation, mais l'idée c'est que si l'être humain n'était pas exposé à certains types de dangers, les dangers thermiques, le froid ou la chaleur excessive, les prédateurs naturels, que ce soit un moustique chikungunya ou un fauve, eh bien, voilà, l'indolence s'installerait, on ne fait rien, on se contente de vivre, il n'y a pas de mal naturel, donc on est invulnérable, rien ne se passe. Alors, ça te pose une question, parce qu'on va dire, oui, là vous êtes en train d'instrumentaliser les souffrances pour lesquelles des innocents payent, tout ça pour qu'il y ait un progrès de l'humanité, et quand on voit ce que l'humanité fait ses progrès, on se dit, bah, finalement, on a envie de redevenir un peu rousseauiste, comme vous savez, l'état de nature, même s'il n'a jamais existé, bon, c'est l'état dans lequel l'échange de besoins et de ressources avec la nature est minimal, et c'est pas si mal que ça. Bon. Mais vous voyez, il y a quand même une part d'intérêt, c'est que le développement de l'ingéniosité humaine, s'il n'y avait pas, non pas ces signaux avertisseurs, mais ces expériences du mal naturel, je pense que on ne développerait absolument rien de ce qui protège la santé, protège l'habitat ou protège la vie des personnes. Voilà. C'est-à-dire que le mal naturel, on voit ça uniquement dans l'excès, un tsunami, etc. Mais le mal naturel, dès qu'il y a maladie ou dès qu'il y a mort naturelle, on va dire c'est mal, ce serait mieux de continuer. Et donc, on peut découvrir une certaine, je ne dis pas une certaine valeur, hein, mais une certaine pertinence à cette, la présence, la subsistance ou la permission de certains mots. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber dans l'instrumentalisation, parce qu'on pourrait dire, ouais, heureusement qu'il y a des tsunamis. Puis regardez, les élans de solidarité, à chaque fois qu'il y a une inondation, c'est merveilleux, la famille humaine se réunit, et même le FMI donne de l'argent, et même les cœurs les plus fermés s'ouvrent à nouveau, etc. Et il n'en demeure pas moins que, quand est-ce que les êtres humains se retrouvent enfants, frères en tout cas, à défaut d'être enfants d'un même père, bien c'est dans ces situations-là, c'est pas dans l'abondance. Les situations de dévouement, de solidarité, de courage, d'héroïsme même, bon, ben voilà. Alors du coup, là, le mal naturel prend la valeur d'une épreuve. Le problème, évidemment, c'est que c'est une épreuve qui, comme le signal prophylactique, si je laisse ma main au feu, ben voilà, elle disparaît. L'épreuve se prolonge et l'engloutit des milliers de personnes. Alors à la limite, on va dire, mais Dieu aurait dû imaginer un système dans lequel les gens commencent à se noyer, mais tout de suite, les secours arrivent, etc. Et après, on est plus vigilant, ou un petit tsunami qui fait que les gens qu'on a forcés à construire en bord de mer, dans une région inondable, sont prévenus, ils ramassent leurs affaires, et puis après, la mairie décide que voilà, on ne construit plus en zone inondable, etc. Et là, le psychologue du service devrait répondre, vous savez, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut le cœur humain est prompt à s'endurcir et généralement, on attend un certain temps avant de mettre quelques moyens en faveur des premières victimes. Voilà. Donc, et en plus, l'idée, c'est de ne pas tomber dans l'instrumentalisation, ne jamais dire un mal pour un bien. Parce que là, vous auriez un Dieu vraiment cruel qui dit, écoutez, je leur envoie des épreuves, mais bon, c'est pour qu'ils s'améliorent. La limite, c'est envoyer une épreuve, pourquoi pas, mais pour quelqu'un qui est capable de la supporter et qui est capable de la dépasser. Et il faut donc qu'il s'améliore et que tout compte fait, il dit oui, ben, heureusement que j'ai vécu ça, ça m'a permis de. Et puis d'en faire profiter d'autres. Or, visiblement, enfin, à vue humaine, ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il y a beaucoup d'épreuves, et des maux naturels, des souffrances naturelles, que ce soit les maladies neurodégénératives, dont on ne voit pas le fruit en termes de mieux-être humain, qui sont plutôt des sources de découragement ou de réactions comme ça, la vie, il faut s'en débarrasser, on va s'arranger, ne cherchons pas des raisons de vivre, facilitons les moyens de mourir. Donc, ces épreuves-là, si elles étaient vraiment voulues, eh bien, c'est un mauvais calcul. Alors, il y a des réflexions encore plus radicales et dans lesquelles vous allez voir qu'on peut difficilement couper la question du mal moral de celle du mal naturel. C'est la réflexion qui consiste à dire... Mais le mal naturel est une condition du mal moral. Sans mal naturel, pas de mal moral. Si personne n'avait jamais été exposé à la douleur, si personne n'avait vu quelqu'un se noyer ou suffoquer dans les flammes ou gémir en recevant une pierre sur la tête, nous n'aurions pas le concept de souffrance qu'on inflige à quelqu'un et donc il n'y aurait pas de mal moral. Nous serions tous hors d'état de nuire. Donc, c'est-à-dire que le mal naturel, le fait que des souffrances physiques, voire la mort, puissent s'ensuivre d'un certain nombre de processus naturels, est un prérequis nécessaire de la possibilité de la malfaisance, du mal moral. C'est assez étrange comme ça. Mais sans mal naturel, vous ne pouvez pas avoir l'idée de tuer quelqu'un, de faire souffrir quelqu'un, et vous n'avez pas non plus le moyen de lui infliger une souffrance. Elle veut dire, ouais, mais vous comprenez, la vraie souffrance morale, c'est la haine, quand quelqu'un vous voue une haine. Mais quelqu'un qui vous voue une haine, mais qui ne peut rien faire, et là c'est encore l'inbikilus et l'inbidus, vous dites, ben, le pauvre, la pauvre. Ce qui rend terrible le harcèlement, la menace, etc., c'est que vous savez que cette personne, même si pour l'instant elle pourrait faire appel à des gens, et elle pourrait vraiment vous mettre à la souffrance. Et du coup, il y a une connexion ici entre le mal naturel et le mal moral qu'on a tendance à sous-estimer. Parce qu'on dit, d'un côté, il y a des maladies, machin, qui ne sont pas d'origine criminelle. Et de l'autre côté, il y a la méchanceté humaine, la malfaisance. Mais je vais prendre juste l'exemple des carmélites de Compiègne. Lorsque le tribunal révolutionnaire les condamne, il faut bien qu'il y ait un couperet qui décolle la tête. Et si, pas simplement, on vous hait, on vous déteste, vous êtes liberticide, et si on ne peut rien leur faire, elle va dire, écoutez, on continue. Et je vous invite à considérer que le mal naturel, c'est toute limitation du développement de mon existence dans toutes ses dimensions. Hein. Pas simplement le problème de santé, mais la réduction de mon périmètre d'activité ou d'investissement personnel, la réduction de mon horizon de déplacement, etc. Tout ça, ce sont des manières d'infliger le mal naturel. Et là, on voit bien que le mal naturel est une véritable condition naturelle, condition nécessaire, pardon, du mal moral. J'ai presque envie de dire que aucune souffrance n'est purement morale. Je ne dirais pas qu'aucun péché n'est purement moral, mais aucune souffrance n'est purement morale. Quelqu'un qui se sent dans la détresse, généralement, c'est associé à un abandon, c'est-à-dire à un manque de présence physique, de proximité. Hein. Alors, je ne sais pas un résultat que je prétends vous infliger comme ça, surtout à 10h du soir, hein, mais c'est un sujet de méditation, c'est-à-dire, bah, Seigneur, dans ma vie, j'ai tendance à dire, il y a les maladies d'un côté, puis la méchanceté de l'autre. Il y a peut-être un lien, et puis le lien est peut-être encore plus profond qu'on le croit. Alors, tout ça, ce sont des façons de se demander si le mal naturel aurait des raisons d'être. On devine qu'il joue un rôle dans la dignité d'une existence humaine. S'il n'y avait pas de mal naturel, hein, faisons une expérience de pensée, supposons que le mal naturel disparaisse. Le mal naturel disparaît entièrement. On appuie sur un bouton, mal naturel, zéro, qui descend à zéro. Donc, il n'y a plus de mort, plus de maladie, plus de naissance. Je pousse quelqu'un sous un tramway, même pas mal. Comme dans les dessins animés, il est aplati, puis il est aplati, mais il a même pas mal, parce que dans les dessins animés, il y a quand même un moment où, quand la personne est aplatie, on entend et on a l'impression qu'il y a l'analogue d'une souffrance, d'une déformation, d'un tiraillement, d'une torture, et puis après on se remet la tête, tac, et tout redevient comme avant. Il y a une sorte d'invulnérabilité là, du personnage du dessin animé, mais elle est sinusoïdale. Si vous... Là, s'il n'y a pas de mal naturel, je ne souffre jamais. Il n'y a plus de haine alors. S'il n'y a plus de mal naturel, il n'y a plus de mal moral. Je ne peux plus vouloir du mal à quelqu'un, parce que il faut bien à un moment donné que le mal moral s'exprime par un coup près, par un coup de pied, par une gifle, par un coup de fouet, etc. Si on se contente, comme les Grecs, d'insulter comme ça la troupe adverse sans envoyer son javelot, bon, c'est bien gentil, mais... Voilà. Et l'insulte n'a plus de sens. La menace, oh, tu vas voir, mais tu ne vas rien voir, parce que de toute façon, tu ne me feras rien. Je pense que... moi, c'est une découverte assez récente, je ne sais pas... Mais nous sous-estimons le lien entre mal naturel et mal moral, parce qu'on a appris, dans les cours de philo notamment, il y a deux sortes de mots, le mal naturel et le mal moral. La douleur physique et la souffrance morale. La souffrance morale infligée par un agent, la douleur physique qui est le résultat des lois de la nature. Dieu aurait-il pu faire des lois de la nature mieux, etc. Oui, mais la tectonique des plaques, c'est bien. Oui, mais il y a quand même des tsunamis. Oui, mais bon. Alors, il y a une réponse qui est celle de l'espérance d'un certain nombre de religions, dont la religion chrétienne, et qui est, le mal naturel est... à une extension trop importante pour être simplement conçue comme épreuve, comme signal prophylactique, comme condition nécessaire du mal moral. Il prend des proportions terribles. Donc il faut trouver autre chose, et autre chose, c'est, l'espace de la vie dans laquelle vous expérimentez ce mal naturel n'est pas la totalité de ce que Dieu a à vous offrir. Et donc, c'est ce que dit Saint Paul aux Romains, hein, il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire qui doit se révéler en nous. Donc c'est un peu... on rase gratis demain. Quoi. Donc, pour l'instant, vous en bavez. Voilà. Alors, en un sens, j'ai envie de dire, c'est vrai ou c'est faux. Le problème, c'est que ce n'est pas le genre d'énoncé qu'on vérifie comme ça, par une simple expérience, par un simple test empirique. Ça relève de l'espérance. Comme affirmer que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, et donc, y compris les maladies. Blaise Pascal a écrit une prière sur le bon usage des maladies. On va dire, c'est très doloris, etc. Oui, mais et pourquoi pas, hein. Mais vous comprenez ici qu'on fait appel à un prolongement de l'expérience. Hein. Il y a une partie gratuite après, dans laquelle on voit l'envers du décor. On dit, ça, cette difficulté, cette maladie, même cet Alzheimer qui s'est éternisé, c'était pour ça, ou je suis consolé. Et là-dessus, il faut bien entendre les résistances ou les réticences très fortes de personnes blessées ou révoltées qui reprennent à leur compte la réponse de Ivan Karamazov, dans les frères Karamazov, en disant, mais le prix à payer pour cette consolation, pour cette réconciliation, est trop élevé. Et ne vous trouvez pas, si vous relisez ce fameux chapitre du livre 5 des frères Karamazov, Ivan Karamazov dit effectivement, oui, je veux la consolation universelle, oui, j'attends ce jour où le bourreau et la victime s'embrasseront, et donc où toutes les souffrances seront rédimées, et voilà. Mais, en attendant, c'est trop cher payé.
La souffrance de l'enfant,
déchiqueté par des chiens dans un coin infect. Ouais. C'est du mal naturel, ça. Alors, il y a aussi un autre exemple dans lequel il y a une c'est une torture morale infligée par un général russe en état d'ébriété, de cruauté. Mais encore une fois, ça passe toujours. Non, mais ça passe toujours. Il faut des instruments de torture. Il faut des chaînes. Il faut de la souffrance du mal naturel. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Bon. Alors, cette réponse, ben, il faut... l'idée que le rapport entre les épreuves à endurer et le bénéfice d'une consolation éternelle, ou que le rapport entre le coût et l'utilité de cette souffrance est excessif, c'est parfaitement dit par Karamazov qui dit « je rends mon billet ». Voilà, je rends mon billet. Je ne veux pas entrer dans ce jeu-là. Bon. La compensation ultérieure, bon, voilà. Alors... je ne vais pas trop prolonger quand même, mais je voudrais vous inviter, ben, je sais que vous le faites sans doute déjà, mais une méditation à partir du Catéchisme de l'Église catholique. C'est un livre que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années et que je trouve remarquable, pas toujours très... excitant à la lecture, mais vous y trouverez des perles, des témoignages de grands saints, Thomas More, François d'Assise, etc., Catherine de Sienne. Bon. Et alors, je voudrais vous citer la catéchèse sur le mal, et qui me semble remarquable. C'est le paragraphe 309. Alors, écoutez bien. « Si Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du monde ordonné, est bon, bon et tout-puissant, hein, c'est... prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe-t-il ? À cette question aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne saura suffire. Aucune réponse rapide ne saura suffire. Donc, si vous sortez cette soirée en disant « mais il n'a pas donné une réponse », je dis « tant mieux ». Je me méfierais, et je me méfie encore plus, de toute réponse rapide. « Ah oui, mais le mal naturel, c'est pour ceci, pour ça. » J'ai essayé d'indiquer qu'il y a plusieurs aspects et dont certains sembleraient dire bah, il faut qu'il y ait mal naturel, sinon il n'y a pas ça. Oui, mais il y en a trop, là. Hein, et que donc, il n'y a pas de réponse rapide. Il n'y a pas un front conceptuel sur lequel on peut avancer en disant « ça y est, on a trouvé la réponse ». Le catéchisme continue. « C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché... » Alors, question, est-ce que le drame du péché... expliquerait non pas tous les maux naturels, mais une partie des maux naturels. Est-ce que certains désordres naturels de la création ne seraient pas le résultat d'une jalousie ? C'est ce que dit la sagesse, Dieu n'a pas fait la mort, c'est par la jalousie du démon que la mort est entrée dans le monde. On a tendance à considérer que la nature, c'est forcément un truc qui n'a rien à voir avec un combat pour la confiance ou pour la méfiance. Mais moi, j'imagine très bien qu'un esprit angélique créé qui se dise « Mais comment faire pour désespérer les humains ? Comment faire pour qu'ils me suivent dans ma révolte, qui elle est purement morale ?» Parce que j'imagine qu'au début, il n'y a pas de mal naturel. Il n'y a que la possibilité de désobéir. Là, c'est peut-être le seul cas purement moral. Vouloir être comme Dieu, mais avant Dieu, et sans Dieu, hein, définition du péché originel par Maxime le Confesseur, ce que j'ai trouvé dans le catéchisme, c'est... parfaite, c'est une géniale définition du péché originel. Vouloir être comme Dieu, mais avant Dieu et sans Dieu. C'est lumineux, je crois. Donc, ce péché moral, ok, mais l'idée, c'est que ben, il se pourrait que quelqu'un qui voudrait entraîner dans cette révolte des créatures, ben, le meilleur truc, c'est de casser la confiance des créatures dans leur créateur. Et qu'ils disent, tu as créé les êtres, ah oui, mais ce bébé, à 6 mois, il a un cancer. Oui, ben c'est pas Dieu, c'est pas possible. Là, c'est, hein. Alors Jésus le dit très bien, hein, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Mais pas facile, parce que après, vous dites, bah, écoutez, alors c'est pourquoi il n'intervient pas s'il peut. Alors donc, et la quantité des détresses liées à des maladies est telle qu'on. Ça fait froid dans le dos. Alors je remonte la défi, si vous disiez bien mieux. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question, la bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance, par un mystère terrible, se dérober. Et ce paragraphe 309 termine par « Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. » Vous voyez, c'est un sacré programme. Aucune réponse rapide ne saura suffire. Et néanmoins, il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit en partie un peu mal. Quand vous entendez un prêche, vous lisez une page de la Bible, de l'Évangile, etc., le catéchisme vous dit, tout message chrétien, il y a une partie qui est là pour répondre au problème du mal, qui est là pour essayer de conforter, consoler, de fortifier dans l'épreuve la foi des personnes. Beau programme. Bien, je termine par une petite remarque. Dans ce même catéchisme, il y a une réflexion qui est intéressante, c'est deux articles plus loin, l'article 311, qui parle donc du mal moral et qui dit que le mal moral est sans commune mesure plus grave que le mal physique. Je trouve la remarque qui est intéressante, alors je ne vais pas ici la discuter en détail, mais en un sens, c'est assez vrai qu'on est beaucoup plus choqué par un acte de perversion, surtout quand il prend des proportions assez énormes, que par un mal physique. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant. J'ai l'impression que l'argument du tremblement de terre de Lisbonne ou du tsunami de Tahiti est peu employé. Dans ces moments, l'humanité serre les coudes et j'ai pas vu des éditos de Charlie ou disant oui, nouvelle preuve que n'existe pas, regardez, 150 000 morts en Haïti. Par contre, le génocide rwandais, les gens disent, écoutez, là, quand même, le pays d'Afrique est plus chrétien. Alors, les gens disent, oui, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde, et là où la grâce surabonde, le péché surabonde, donc vous comprenez, etc. Et l'ennemi, évidemment, il a intérêt à ce que ça se passe mal là où ça devrait bien se passer. Bon, alors, je termine en disant, bah oui, ce mal naturel. Peut-être le message chrétien nous invite-t-il à considérer qu'il est la conséquence en nous. Enfin, tout ce qui dans le mal naturel dépasse la mesure de ce qui est prophylactique, de ce qui permet la responsabilité morale, etc. Tout ce qui dépasse cette mesure pourrait être la conséquence d'une volonté de désordre. Vous connaissez les magnifiques prophéties d'Isaïe. L'enfant étendra la main sur le nid de cobra, il ne sera pas piqué. Ce qui est arrivé à Saint Paul à Malte. Et le loup dormira avec l'agneau. Et Woody Allen rajoute, mais l'agneau ne dormira que d'un seul œil. On ne sait jamais. Hein. L'idée que le mal physique, le mal naturel, pourrait être une conséquence d'une désobéissance, mais le mal naturel est aussi souvent un mode d'expression de cette méchanceté, de cette révolte contre. Et donc ce désordre introduit dans la nature, qu'il soit physique ou moral, procède de cette même refus de servir le bien. Voilà, je n'ai déjà que trop parlé, mais enfin, vu l'heure, vous me pardonnez, j'espère. Merci de votre accueil. Et puis, s'il y a une ou deux questions, peut-être on peut les prendre. Mais justement, aucune réponse rapide ne suffira. Donc, je suis dédouané au cas où j'arrive pas à répondre.
Merci beaucoup.
Il y a une question là.
Ça,
c'est Lazare.
Alors, tu comprends, il y a mélange Jean 9 et
Jean 11. Virer.
Jean 11, c'est pas, elle ne convie pas à la mort, et Jean 9, c'est aveuglé, c'est ni lui qui a péché, du coup, ses parents, ni ses parents. Oui, c'est la même idée,
Et pareil pour la chambre de Siloé, je crois. Et du coup, je me demande si la notion de justification ou de glorification de Dieu peut entrer comme justification de l'image naturelle.
S'il y a des mots naturels dont vous dites ils sont pour la gloire de Dieu, comme Jésus le dit à propos de la mort de Lazare, et de fait Lazare ressuscite, mais il n'y a pas beaucoup de Lazare qui ressuscite, donc c'est un cas effectivement, hein. Et alors je vous invite à relire l'évangile de Lazare, parce qu'on est obnubilé par le happy end, et puis quand l'évangile est très long, mais c'est assez extraordinaire ce texte. Hein. Jésus est à quelques encablures de Béthanie. On lui dit ton ami Lazare est très malade. Il dit oui, je sais, c'est pas grave. Ton ami Lazare est mort. Il est très malade. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Et puis après, donc il reste deux jours encore à Jérusalem. Puis après, on lui dit il est mort. Il dit non, il s'est seulement endormi. Ah, donc s'il est endormi. Ça va. Non, il est vraiment mort, mais c'est pour que mon père et moi, nous soyons glorifiés, etc. On a l'impression qu'il y a une pure et simple instrumentalisation de la mort d'un ami. Après, au bout d'un moment, au quatrième jour, Jésus fait le trajet, hein, alors que c'est une demi-heure de marche, un peu plus rapide. Et il arrive, et alors tout le monde pleure. Et alors là, l'évangile se retourne. Et lorsque Jésus vit que les Juifs qui pleuraient, Jésus pleura. Et l'évangile a trois versets dit, bouleversé, remué dans ses entrailles, etc. Et puis, Marthe vient le voir, etc. Il met à l'épreuve sa foi dans la résurrection. Il dit, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Crois-tu à la résurrection? Oui, je crois à la résurrection le dernier jour. Etc. Eh bien, voilà, il y aura la résurrection, etc. Donc, c'est assez. Voilà. Et vous connaissez la fin. Lazare est ressuscité, et Jésus dit, Père, je savais bien que tu m'exaucerais, car c'est pour la gloire, etc. Et là, les deux natures, humaines et divines, sont côte à côte, et jouent chacun leur partition. Mais on est dans un cas bien particulier, et je ne pense pas qu'on puisse dire que toutes les maladies dont nous sommes témoins sont pour la gloire de Dieu. Il y en a tellement, et Dieu ne vient pas ressusciter tout le monde. Et du coup, je pense que cela donne une raison de dire certains, l'excès de désordre et de malheur physique dans l'humanité pourrait être l'expression d'une jalousie du démon. Parce que la maladie de Lazare, c'est pour que les gens aient la foi. Mais attendez, il se trouve que j'ai le texte là, parce que c'est vraiment ça, hein. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que tous les Alzheimer aujourd'hui, on va dire, mais c'est pour que. Les 150 000 morts en Haïti, c'est pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Non. Donc c'est autre chose, et je pense que l'autre chose, c'est. Écoutez ce qu'il y a là. Il leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis de ne pas avoir été là. À cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je lui dis, ton frère ressuscitera. Je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Je lui dire, non, on va le faire tout de suite. Non, il dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ça veut dire, c'est le dernier jour, hein. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? Et toi, qu'est-ce que tu crois, toi? Oui, Seigneur, je crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle part appeler sa sœur Marie, par là c'est le plus beau, et lui dit tout bas. Le maître est là et il t'appelle. Vous savez, c'est l'inscription que vous trouvez à l'adoration là, à Bruguet-Lussac. Elle lui dit tout bas, elle ne fait pas une grande pub. Ah, j'ai lui là, il te demande. Enfin bref, je vous dis, relisez le texte. Hein. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle lui redit la même chose. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors, il se mit à pleurer. Et vous voyez, ce Seigneur, viens et vois, c'est le monde à l'envers. Au début, où demeures-tu ? Venez et voyez. Et là, c'est Seigneur, viens et vois. Tu viens chez nous, tu viens faire des miracles, mais là, tu viens dans la mort. Viens visiter le mort. Ouais. Mais je suis parfaitement d'accord avec votre réaction, de même que l'aveugle Bartimée, c'est pour la gloire de Dieu. Mais pensez à tous ceux qui ne sont ni Bartimée ni Lazare. Hein. Et là, je pense que Jésus le dit aussi, quoi. C'est un ennemi qui a fait cela. Et le Père des cieux, en bon laboureur, n'enlève pas toute l'ivraie, parce que ça peut être l'occasion d'enlever aussi le bon grain. C'est ce que j'essaie de dire en disant que le mal naturel est dans bien des cas une condition nécessaire de l'expression d'une responsabilité, d'une dignité de l'être humain. Mais ça reste un mystère, hein, aucune réponse rapide.
Il y a un élément aussi qui vient compliquer les choses, c'est le pour, hein, c'est pour la gloire de Dieu. Bon, on prend souvent ça dans une logique instrumentale, c'est la clé à molette qui permet de... Et je suis persuadé que c'est pas du tout comme ça, c'est vraiment pas du tout comme ça que Dieu voit les choses. Pensons à la création, par exemple, on va dire l'homme est créé pour louer Dieu, mais ça veut pas dire que Dieu... L'homme est un instrument, Dieu a envie d'entendre des louanges, on va dire bah, tu es beau, tu es grand, ça. Et bien, je vais créer des petites rêves, je vais faire des petites créatures qui font ça, mais c'est pas... Et pourtant, c'est vrai de dire que l'homme est créé pour louer Dieu, mais ce pour, c'est un pour qui est investi par la gratuité d'un amour total qui est celui du Père, qui nous crée, alors qu'il est absolument parfait, bienheureux en lui-même. C'est vraiment l'amour hein, qui est la clé. On voit bien dans le mariage, quand on est marié, ah ben, tu me rends heureuse, je suis l'homme le plus heureux de la terre de t'avoir épousé. Mais est-ce que tu m'as épousé pour être heureux ? Ben non. Et c'est justement parce que je ne t'ai pas épousé pour être heureux que tu peux me rendre heureux, en fait. Alors je me dis que, quand Jésus dit, mais avec Lazare, il y a quand même, et le fait qu'il pleure, pour moi, c'est très important. Là, c'est le fait qu'il y a quand même quelque chose dans une souffrance. Alors là, vraiment, c'est le mystère du mystère. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un aspect qui peut nous sembler récupérable dans le dessein de Dieu. Et à la fin, le film se termine bien, mais... Au moment où on vit la souffrance, il y a quelque chose comme une espèce d'éternel qui passera jamais. Et qui est un peu la cicatrice de la gratuité. Alors, comment ça sera au ciel ? Parce que c'est aussi le problème de toutes ces réflexions, c'est que, après tout, au ciel, on restera homme, on restera libre, on aura même un corps. Alors, plus de mal, ni physique, ni moral. Donc, c'est clair qu'il y a du mystère. Mais en tout cas, je trouve que ce pour. Il est là dans la Bible, mais il ne faut pas faire de... Je pense que jamais Dieu instrumentalise, ni pour le bien, ni pour le mal. Je pense que c'est totalement étranger à sa manière d'agir avec nous.
Ouais, les morts instrumentalisées, il n'y en a pas. J'ai lu une très belle page du Talmud dans le traité Sanhedrin, folio 39b. C'est que depuis 1563, l'Église catholique autorise la consultation du Talmud, à condition de ne pas le citer.
Ah ben là, c'est raté.
Désolé. off on the record. C'est le moment où donc on commente le moment où Myriam, vous parliez tout à l'heure, et Moïse font leur cantique d'action de grâce, chevalier, cavalier, etc. Et puis on a gagné de Dieu, a écrasé Pharaon englouti avec son armée, etc. Alors les kéroubim et les séraphim vont voir l'Éternel et ils disent t'as entendu, ils font la fête. Veux-tu que toi aussi nous entonnions un chant de victoire ?
Je suis triste parce que mes fils
sont... Silence, ce sont mes enfants qui sont morts.
C'est très beau, ça.
Alors là, oui, l'instrumentalisation nationaliste, des conflits, etc. Voilà. Mais c'est comme la mort des nouveau-nés, le truc. Hein. Là, il faut... Là, pour le coup, moi, je ne suis pas pour la démythologisation de la Bible, mais quand il s'agit de détruire des créatures, je pense que Dieu n'est jamais de ce côté-là. Il ne peut pas l'être. Il ne peut pas l'être. Alors ensuite, c'est vrai qu'il y a des guerres, etc. Puis les gens disent, bah oui, nous, on suivait plutôt bien, on était fidèles à des trucs, et nous, ils nous embêtaient. Et on interprète le fait qu'il y a une épidémie de méningite, c'est la revanche. Mais là, vous voyez, on est du côté d'un Dieu haineux. Sauf qu'on veut que ça tombe pas sur nous, mais sur l'autre. Or, comme Jésus le dit sans arrêt, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Mais c'est pas simplement Jésus. Le Talmud également rappelle que, de livre de l'Exode, l'amour de l'ennemi, c'est sacré. Alors, quelle est la différence entre la première et la deuxième alliance ? Elle est énorme.
C'est pas les valeurs. Vous trouverez les valeurs de l'amour de l'ennemi, de la compassion, dans le Deutéronome, il n'y a pas de problème. Aimez-vous les uns les autres, c'est pas chrétien, c'est déjà un Deutéronome. Mais comme je vous ai aimé, et puis le fait que c'est Dieu en personne, Jésus, là, ça change tout. C'est plus simplement des valeurs, c'est plus un code, c'est plus une Torah, c'est quelqu'un. Et qui prend vos souffrances et toléré Baloum sur la croix, c'est ça qui change tout. Le reste, les valeurs chrétiennes, bon, je ne vais pas être méchant, mais les valeurs chrétiennes, vu comme nous les chrétiens on les illustre, on ferait mieux de. Les chrétiens, on a inventé les deux guerres mondiales, l'Europe chrétienne, on a donné le pire exemple. Alors, mon lot sur les valeurs chrétiennes, mais Jésus-Christ, alors ça, on peut faire rencontrer Jésus aux gens, ça c'est génial. Ça. Et dans l'émission que vous allez faire, je souhaite que vous donniez aux gens le goût de rencontrer la source, celui qui pardonne, celui qui rend la joie là où il n'y avait que les larmes, celui qui dit « Mais qui est là pour te condamner? Moi, je ne te condamne pas. Lève-toi et arrête de déconner. » Ça, c'est ça la rencontre. Hein, voilà, mais oui, aucune réponse rapide ne suffit, c'est pour ça que je réponds.
Ah, on va peut-être vous libérer. Ouais.